Merci Francky, merci aussi aux musiciens, surtout aux musiciens parce qu'ils se sont mis au dernier moment pour pouvoir jouer, sinon on aurait pu, enfin, on a failli chanter a cappella, ce qui est aussi bien, mais merci encore d'avoir répondu à l'appel. Comme aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vais devoir vous parler tout doucement, tout lentement et aussi... Tout calmement, puisque je suis toujours un petit peu enroué et que je ne vais pas pouvoir, je vais pas devoir, enfin, hausser la voix pour vous parler. Alors ce matin, je vais vous partager un psaume que vous connaissez peut-être bien. C'est dans psaume 124. C'est autour de cette parole, ce chapitre, que nous allons partager la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous lire dans psaume 124, pardon, chant des pèlerinages appartenant au recueil de David. Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, qu'Israël répète, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, quand les hommes se sont dressés contre nous, quand leur fureur a pris feu contre nous, il nous aurait engloutis, tout vif. Alors, le courant nous aurait emporté, le torrent nous aurait submergé. Alors, les eaux bouillonnantes seraient passées sur nous. Merci au Seigneur de ne pas nous avoir laissés comme une proie entre leurs dents. Nous nous en sommes tirés comme un oiseau échappe au filet du braconnier. Le filet s'est rompu, nous étions libres. Notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait le ciel et la terre. Jusqu'ici notre lecture. Mon souhait premier, à travers ce culte, pendant ce culte aussi, que notre confiance en Dieu grandisse, que notre foi s'affermisse davantage en Dieu, que notre foi vraiment devienne inébranlable. Malgré les difficultés, puisque nous avons déjà ce matin entendu, oui, on a vraiment demandé de l'aide du Seigneur, malgré les difficultés, dans les moments de joie, mais dans les moments de difficulté. À travers ce psaume, j'aimerais vraiment nous souhaiter aussi que nous puissions croire que Dieu nous aide, et ce n'est pas une parole en l'air, c'est une vérité qui se réalise concrètement dans la vie réelle. Et ce Dieu qui est grand, créateur du ciel, est présent, même maintenant, ce matin, avec nous. Et il est présent dans la vie de chacun. Malgré les situations difficiles, si nous levons nos yeux vers le ciel, nous pouvons voir qu'il est présent et qu'il est à nos côtés. J'aimerais aussi encore vous dire que ce matin, j'aimerais qu'on soit encore plus sûr sur notre foi en Dieu. C'est bien de prier, mais qu'il faut que cette prière soit accompagnée de notre foi. Il est dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement avec bienveillance. Mais, attention, mais il faut qu'il demande avec foi. Il faut qu'il demande avec foi. Est-ce que nous prions avec foi, avec conviction que le Seigneur va réaliser, ou il va en tout cas réaliser sa volonté? Est-ce que nous avons cette conviction? Souvent, les gens disent « oui, je prie », mais ils disent aussi qu'ils ont du mal à croire que Dieu va réaliser tout ce qu'ils demandent. À travers la parole du psaume 124, j'espère sincèrement que nous puissions vraiment apprendre comment prier avec foi. Comme le psaume indique dès le premier verset, ce psaume a été écrit par David, le roi David. Vous le connaissez très bien, il a vécu vraiment une vie très difficile, déjà dès l'enfance. Il a été, lorsqu'il a eu un succès au sein de son peuple, il a été persécuté. Et malgré les péripéties, lorsqu'il est devenu roi, son pays, Israël, est devenu un pays fort, un pays qui gagnait des combats. Et en tout cas, un pays très influent. Comment était-il possible? Parce que David était un roi soumis à Dieu et qui avait vraiment la foi ancrée en Dieu. J'aimerais vous relire le verset 1. Il est dit, chant de pèlerinage, « Si le Dieu, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, si le Seigneur n'avait pas été avec le peuple d'Israël, il serait rien du tout. Il n'existerait même pas. Imaginez, c'est par la grâce que Abraham a pu obtenir son fils, Isaac, à l'âge de 100 ans. C'est un miracle déjà. L'histoire d'Israël commence avec un miracle. Et c'est pour ça qu'il dit, si Dieu n'était pas avec eux, il n'existerait même pas. Voilà. D'ailleurs, il rappelle par la suite l'épisode de l'Exode. Devant le peuple, enfin, ils étaient sous l'esclavage de l'Égypte et ils sont sortis par la grâce de Dieu avec les 10 plaies d'Égypte. Et là, donc, ils étaient confrontés à la mer Rouge devant et derrière, il y avait l'armée du Pharaon qui les pourchassait pour les tuer. Je dirais, ils étaient pressés de tous côtés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un jour que vous avez ce sentiment-là? Que vraiment vous êtes pressé de toute manière, de tous côtés. Et dans 2 Corinthiens 4, il est dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes pressés, enfin nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oui, on peut être dans le désespoir, on peut être dans la détresse, mais pas dans le désespoir, puisque le Seigneur est notre espérance. Nous sommes persécutés, oui, on peut être persécuté dans la vie, mais non abandonnés. Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne nous laisse jamais tout seuls. Nous sommes abattus, ce qui est possible en tant que chrétiens aussi, mais non perdus. Nous ne serons jamais perdus. Ainsi, comme cette parole de 2 Corinthiens 4, lorsque le peuple d'Israël était face à la mer Rouge et derrière il y avait l'armée du Pharaon, Dieu les a délivrés. Ils les ont sauvés, en tout cas Dieu les a sauvés avec des événements inimaginables et surnaturels. Pardon. Pardon. J'ai exprès préparé ça. Ils les ont... Oui, Dieu a fait en sorte qu'il a fendu la mer en deux pour faire traverser son peuple. Donc, il rappelle cet épisode de 2 à 5. Là, quand il dit « Le Seigneur n'avait pas été pour nous », il dit « Quand les hommes se sont dressés contre nous, quand leur fureur a pris feu contre nous, c'est-à-dire les Égyptiens, ils nous auraient tous engloutis, tout vifs. » Et le courant nous aurait emportés. Hein, on fait allusion à la mer Rouge. Le torrent nous aurait submergés. Alors les eaux bouillantes seraient trespassées sur nous. Voilà. Ils auraient été vraiment dans les difficultés. Mais malgré cela, Dieu les a sauvés. Mais ce que David trouve dommage, c'est que dès que l'Israël rencontre des problèmes, ou dès que l'Israël reçoive une attaque de la part de l'extérieur, ils se plaignent et surtout, ils étaient inquiets, ils étaient craintifs. Et David, à travers ce psaume, il aimerait que tout le peuple d'Israël se rappelle les choses incroyables que Dieu avait fait dans le passé. L'existence même de leur peuple est un miracle. Et de même, il a fait tellement de miracles pour son peuple, de même, aujourd'hui aussi, ce même Dieu fera encore des choses merveilleuses pour eux. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire dans ce psaume, rappelez-vous, souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait pour vous. Lorsqu'on était pressé, de toute manière, oui, Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Alors pourquoi il nous laisserait tomber maintenant? Au contraire, ce Dieu qui est le Créateur du ciel et de la terre reste fidèle et sera toujours avec nous. Donc ne craignez pas, mais au contraire, ici, le Seigneur, à travers David, le Seigneur nous dit de louer l'Éternel. Verset 6, merci au Seigneur de ne pas nous avoir laissés comme une proie entre leurs dents. Quel est le secret de la foi de David? Comme je vous avais dit, David était un homme de Dieu, un homme qui était toujours accompagné par l'Esprit de Dieu. Et puis, il se rappelait toujours de ce que le Seigneur avait fait pour lui. Nous connaissons très bien son histoire contre le géant Goliath. Si nous revoyons l'histoire, David était convaincu. Lorsqu'il voit ce grand géant Goliath se moquer du peuple d'Israël, il était convaincu que lui, il pouvait le battre. Lui qui était un petit garçon, hein, un petit jeune homme. Mais il était convaincu qu'il remporterait la victoire. Pourquoi il avait cette foi-là? En tout cas, j'aimerais vous inviter à lire dans 1 Samuel 17, à partir de verset 45 que je vais vous lire. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. » Il n'a pas encore fait. Vous vous rendez compte? Ça va se réaliser, mais il n'a pas encore fait. Il avait la foi que tout ce qu'il dit là va se réaliser. Et là, il continue. « Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. » Et il nous livre entre nos mains. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Comment ce petit garçon avait cette foi? Comment il a pu confesser cette confession de foi? Tout simplement parce que... Et en plus, maintenant, j'aimerais un petit peu, au même moment, vous invitez en tout cas à regarder le roi Saül et le peuple qui était devant le Goliath. C'était un peuple de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu comme vous et moi. Hein? On voit un événement et on a chacun une autre manière de voir les choses. Que ce soit le roi Saül, que ce soit les frères de David qui étaient présents dans la bataille, dans cette bataille, que ce soit tous les autres peuples, n'avaient pas la foi que Dieu pouvait faire quelque chose. En tout cas, personne n'avait le courage d'aller affronter ce grand Goliath. Mais David, ce petit garçon, avait la foi. La foi pour, comme quoi Dieu allait agir pour eux. Et il ne craignait pas, il ne tremblait pas de peur. Et pourquoi il avait cette foi-là? Et d'ailleurs, le roi Saül lui dit, mais t'es trop petit. Hein, on lui a essayé des armures, son armure. Hein, il est trop grand pour lui. Donc, on ne sait pas quoi faire. Même le roi Saül déconseille, en tout cas, ce petit garçon d'affronter ce grand Goliath. Mais vous savez comment il a répondu? David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis. Et là, il se rappelle, il se souvient de ce qui s'est passé auparavant. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, Mais je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Il raconte donc son histoire. David savait parfaitement ce que le Seigneur avait fait pour lui déjà auparavant. Un petit berger qu'il était, il avait déjà expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Hein, en gardant les moutons, en gardant les brebis, hein, il a expérimenté l'apparition des bêtes sauvages, des bêtes féroces contre lesquelles il a pu combattre. Et grâce à Dieu, il a déjà vaincu, il a déjà connu la victoire avec le Seigneur. Et ce souvenir de victoire, quand il a vu Goliath, il a pu vraiment encore... faire revivre, en tout cas, la même chose. Voilà. Dans les personnages bibliques, il y a beaucoup de personnes qui se sont souvenues des événements du passé pour avancer. Comme Josué, il avait vécu pas mal de choses avec Moïse. Et lorsqu'il est devenu le leader du peuple d'Israël, il combat les Cananéens et surtout les Amoréens aussi, au chapitre 10. Et il dit, il était en train de remporter la bataille contre les cinq rois du pays de Canaan, les Amoréens. Et ils étaient en train de s'enfuir. Et il fallait que le soleil, enfin le jour continue. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le soleil, arrête-toi. J'ai entendu pour la première fois cet épisode, j'étais petit, mais j'avais du mal à croire. Mais je suis convaincu que le Seigneur vraiment a réalisé. Et le soleil s'est arrêté pendant une journée. Pendant une journée, le soleil s'est arrêté et le peuple d'Israël a pu exterminer tout le peuple. Et pourquoi il a pu réaliser ce genre de proclamation, de confession de foi? Tout simplement parce qu'il avait la foi que Dieu avait déjà réalisé plein de choses pour Dieu, enfin pour son peuple, et que en ce moment, pendant la bataille, il a senti que Dieu était avec lui. Ils étaient en train de remporter la victoire. Et qu'il manquait encore du temps, donc il a vraiment demandé que le soleil arrête pour continuer à remporter cette guerre. Et puis, d'ailleurs, après avoir remporté la victoire, il prend les cinq rois des Amoréens et il demande au peuple de marcher sur le cou de ces cinq rois. Enfin, c'est un peu violent, mais bon, en tout cas, pour qu'ils se souviennent. Ils se souviennent de quoi? Qu'ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Josué leur dit, ne craignez point. Ne vous effrayez point, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire devant eux. Fortifiez-vous. Ayez du courage. Cette parole est toujours valable pour nous aujourd'hui. Peut-être à cette époque-là, Josué disait à son peuple, mais Dieu nous dit aussi en ce moment, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous, ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Même si Dieu avait fait plein de choses merveilleuses, si on oublie, notre foi peut être ébranlée. C'est pour cela que c'est important de se souvenir. Nous sommes un peuple, enfin, David est en train de dire, nous sommes un peuple qui a pu traverser la mer Rouge. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez les fêtes des Juifs? Il y a plusieurs fêtes. Et qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle de quoi? Du Seigneur, de ce que le Seigneur a fait, surtout pendant la délivrance, pendant la sortie d'Égypte. Comment Dieu a pu vraiment ouvrir la mer en deux. et que comment pendant 40 ans ils ont vécu, en tout cas sains et saufs, pour arriver jusqu'à la terre Canaan. Et c'est pour ça qu'ils font des fêtes. Pendant cette fête juive, ils mangent du pain, ils habitent pendant une semaine dans une cabane à l'extérieur de la maison pour se souvenir. Et à chaque fois quand ils font cette cérémonie de fête juive, les enfants se demandent aux parents, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on vit? Pourquoi on doit vivre dans cette cabane alors que nous avons un bon lit dans la maison? Hein? À ce moment-là, les parents leur racontent, oui, tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur nous a gardés pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, le Seigneur nous a nourris, nous a vêtus, enfin, nos vêtements ne sont pas usés pendant 40 ans. Hein? Ni les sandales, il nous a vraiment nourris jour après jour. Il nous a fait accompagner avec une colonne de feu et de nuée tous les jours. Il raconte ça aux enfants. Donc, à travers ces fêtes juives, les enfants apprennent l'histoire. Et puis, en se souvenant, la foi grandit. C'est important de faire rappeler aux enfants de ce que le Seigneur a fait. Nous, les chrétiens, nous avons nous connaissons non seulement l'histoire de l'Ancien Testament, mais nous avons aussi le Nouveau Testament. Nous connaissons encore bien plus des choses merveilleuses réalisées à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, mort sur la croix pour notre péché, et ressuscité, et puis monté au ciel. Tout ça pour la vie éternelle, pour nous accorder la paix, pour nous donner vraiment l'amour nécessaire, pour nous sauver, pour nous relever. Cette vérité, il faut se souvenir. Lorsque nous avons cette confiance, lorsque nous avons la conviction que le Seigneur est avec nous, à ce moment-là, on peut dire Amen. Et que, au verset 8, il est dit, dans Psaume 124, au verset 8, il est dit, notre secours, ça c'est la conclusion, notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Notre secours vient du Seigneur. Ça ne vient pas de mes propres forces. Ça ne vient pas par les aides de l'État ou encore des familles. C'est parce que Dieu est vraiment notre grande aide que nous sommes secourus. Quelqu'un, au cours d'une étude biblique, je lui demande, crois-tu que le Seigneur demeure en toi? C'est pas dans notre église. Hein? Pour que vous ne cherchiez pas quelqu'un. Et il a dit, non, pas maintenant. Hein? J'ai dit, mais pourquoi tu ne crois pas que le Seigneur demeure en toi? Il a dit, oh ben, tu sais, en ce moment, je prie, mais sans conviction. Je ne lis pas trop la Bible. J'ai un grand conflit conjugal. Je crie auprès des enfants. Au travail, tout va mal. Donc, je ne peux pas permettre que le Seigneur demeure en moi. Et je lui ai dit, il faut tout ça entretenir la relation. Entretenir la relation. Si tu as la foi, le Seigneur est déjà entré en toi, mais il faut vraiment cultiver ce Dieu qui t'a déjà touché dans le passé. Il faut vraiment cultiver cette relation pour que le Seigneur règne dans ta vie personnelle. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Lorsqu'on cultive notre relation avec le Seigneur, au jour J où il y aurait des malheurs, où il y aurait des tribulations, des épreuves, à ce moment-là, le jour J où il y a un grand Goliath devant nous, nous ne craindrons pas. Et là, le Seigneur nous dit, mais ne vous inquiétez de rien, et croyez seulement, ne vous inquiétez de rien et croyez seulement. Cette parole nous est adressée encore ce matin à travers le Seigneur. Cette parole a été prononcée par Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais croyez seulement. Jésus a dit ça à Jaïrus. Vous vous rappelez Jaïrus? Il était le chef de la synagogue qui avait une fille malade. Et il vient voir Jésus. « Seigneur, ma fille est malade. Ma fille unique est malade, mourante. Viens la guérir. » Là, le Seigneur dit « Ok, j'y vais. » Et puis, il ne va pas courir. Hein, il va tout lentement. Hein, et sur le chemin, il rencontre une femme qui perdait le sang. Donc là, il est en train de guérir encore cette... malgré lui en tout cas, avec la foi de cette jeune femme qui perdait le sang, il la guérissait. Et à ce moment-là, quelqu'un qui vient de chez Jaïrus raconte la nouvelle comme quoi sa fille est morte. Et Jésus, après avoir entendu ça, il dit dans Luc 8, verset 50, « Ne crains point. » Crois seulement, et elle sera sauvée. C'est comme si le Seigneur nous disait, ne te déstabilise pas par les événements qui sont difficiles. Mais écoute-moi, c'est ça en fait. Il faut écouter Dieu. Ne crains point, crois seulement. Ne craignons pas. Des malheurs, mais craignons tout simplement, soyons dans la crainte de Dieu seulement. Et puis, Dieu a déjà tout porté sur lui, sur la croix. Et que ce Dieu qui demeure en nous, il va encore réaliser des choses merveilleuses. Ce qu'on peut faire vraiment, c'est que remercier Dieu. Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire d'un couple dans mon ancienne église la femme est devenue enceinte et puis pendant les examens, les docteurs lui disent votre enfant va être handicapé, sûrement. Hein? Donc, on vous conseille d'avorter votre enfant. Et ce couple qui avait la foi en Dieu, il disait au médecin, mais vous savez, même si cet enfant est né handicapé, nous on est prêt à l'assumer, on est prêt à l'aimer de tout notre cœur. Donc, on ne va pas avorter. À ce moment-là, il y a eu des persécutions de la part des médecins qui leur traitaient d'irresponsables, Ils étaient très choqués. Non seulement déjà, par la mauvaise nouvelle des docteurs, ils étaient déprimés, mais en plus, ils les persécutaient pour qu'ils avortent. Ils ont continué, ils ont demandé la prière à l'église, à toute l'église, pour que le Seigneur fasse quelque chose. Et puis finalement, quand l'enfant est né, donc c'était une fille, elle avait, c'est vrai, quelques problèmes de vue, mais elle était en bonne santé. En bonne santé. Et avec les lunettes maintenant, tout va bien. Elle vit normalement. Elle a beaucoup grandi maintenant. Quand je l'ai revue, elle a tellement grandi. Et notre ancienne église se souvenait. Enfin, à chaque fois qu'on la voyait, on se souvient de ce que le Seigneur a fait. Les parents l'ont appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Hein? C'est vrai, Dieu était avec eux. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire, c'est une très belle histoire. Mais nous savons que ça ne se passe pas toujours comme ça aussi. Lorsque nous regardons un petit peu autour de nous, nous connaissons des familles qui ont des familles handicapées. Mais avec la foi, ils continuent à les aimer, à les protéger. Ça, c'est aussi une bonne chose. Dieu leur donne aussi la force à continuer à vivre comme ça aussi. Moi, j'admire en tout cas Sarah Klopfenstein, quand je la vois vraiment avec son enfant. Je me dis, mais c'est incroyable. Ils savaient aussi exactement ce qui allait se passer. Mais ils ont continué, en tout cas, ils n'ont pas avorté non plus. Ils ont eu, mais l'enfant est devenu handicapé. Mais en tout cas, moi, je les trouve vraiment formidables. Les épreuves, ça va continuer. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce que nous avons besoin, c'est vraiment la foi. Et ce que déjà le Seigneur a fait. Et de ce que la foi, comme quoi le Seigneur va encore faire dans notre vie. Alors, j'aimerais conclure. Je disais que au moment où David était devant le géant Goliath, ni le roi Saül, ni les frères de David, ni le peuple, tout le peuple n'avait la foi pour combattre le Goliath. Seul le petit garçon, le petit David, avait pu confronter et remporter la victoire parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait ce souvenir de la manifestation de Dieu dans sa vie passée et parce qu'il avait cultivé ça tous les jours. Et il sentait cet accompagnement de présence de Dieu tous les jours de sa vie. Et c'est ce que nous devrions faire pour aller de l'avant. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne, pour remporter aussi des victoires cette semaine. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, quand nous regardons l'histoire d'Israël, tout est grâce. De même pour nous aussi, Seigneur, nous qui méritions la mort éternelle, tu nous as sauvés. Tu as permis que le monde entier puisse être sauvé à travers la foi en toi, Seigneur, parce que tu as tout remporté sur la croix, nos péchés. Il suffit tout simplement de te faire confiance davantage, de te croire, de te suivre tes prescriptions. Seigneur, aide-nous en tout cas à cultiver davantage ce souvenir de la grâce. Aide-nous, Seigneur, à se remémorer toutes les bonnes choses que tu nous as accordées dans le passé pour que le jour où les épreuves arrivent, qu'on ne soit pas ébranlé. Mais au contraire, qu'on soit toujours prêt à affronter le Seigneur. Et nous savons que tu es toujours avec nous. Tu nous demandes de ne pas craindre, de ne pas effrayer, mais d'être fortifié, Seigneur. Avoir du courage. Oui, Seigneur, aide-nous vraiment à avoir ce courage pour avancer. Oui, peut-être nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Oui, peut-être nous pouvons être dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Oui, tous les jours nous pouvons être persécutés, mais nous ne serons jamais abandonnés parce que tu seras toujours présent à nos côtés. Oui, Seigneur, dans la vie de chrétien, nous pouvons être abattus par des événements, par des circonstances, mais nous ne serons jamais perdus parce que tu es un Dieu qui nous délivre, qui nous sauve. Seigneur, aide-nous vraiment à porter nos regards vers toi pour connaître cette victoire. Ô Seigneur, aide-nous à avoir cette force, cette foi inébranlable. Que ton nom soit loué. Amen. Amen.